Alors, on va pouvoir commencer si vous souhaitez. D'abord, j'ai le plaisir de vous accueillir sur cette journée de lancement du projet Harmonie du PEPR ICAR, qui sera présenté dans quelques instants. Cette journée est intitulée Créer, produire, diffuser à l'heure des technologies immersives et de l'IA, des technologies qu'on va aborder toute cette journée de façon déjà autour d'une table ronde cette matinée et de façon plus expérimentielle cet après-midi. Je vous présenterai rapidement le programme tout à l'heure. Et surtout, c'est un programme qui propose d'aller au-delà des idées reçues qu'on peut avoir sur ces technologies. Je m'appelle Adrien Cornelissen, je suis journaliste spécialisé sur la création numérique particulièrement et comment les technologies engendrent des mutations dans le domaine de la création. Je travaille pour une dizaine de médias, principalement francophones, et j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant toute cette journée, cette matinée plus particulièrement. Je vous l'ai dit, au programme, on a une matinée dédiée à une table ronde. Cet après-midi, vous aurez plusieurs installations que vous pourrez expérimenter et des performances également. Et comme toute journée officielle qui se lance et avec l'importance de cette journée, je vais donner le micro à quelques personnes qui vont vous présenter le PEPR ICAR, qui vont vous présenter aussi le contexte de cette journée. À commencer peut-être par Richard. Richard Collomb-Martinet, directeur du laboratoire PRISM et directeur de recherche CNRS. Pas directeur de recherche ex. Je te laisse le micro, Richard, pour quelques mots et puis après, je donnerai le micro à d'autres personnes.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette journée de lancement. On va essayer de lancer le projet le plus loin possible. Oui, parce que, en fait, ce que je ne vais pas prendre la parole pendant longtemps. Je voudrais simplement, là, commencer par remercier l'ensemble des personnes et des partenaires qui nous ont aidés à organiser cette journée. Alors, j'ai pris une petite feuille pour oublier personne. Bah, tout d'abord, bien entendu, je remercie la Friche de la Belle de Mai et toutes ces équipes techniques et administratives donc, qui nous accueillent aujourd'hui. Dans ce lieu emblématique de la culture marseillaise. Le collectif Déléter, alors là, vous allez les voir, ils sont un petit peu partout, qui se sont donnés corps et âme pour organiser cette journée et qui ont en fait assuré l'entière production de cette journée. Donc ils sont responsables de tout ce qui va se passer, surtout cet après-midi. Vous irez les voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, nos partenaires habituels, nos anciens partenaires, je dirais, de toujours, le groupe de musique expérimentale de Marseille qui nous a ouvert ses locaux, Scène 44, Nicole et Norbert Corsino, que je remercie aussi, qui nous ont ouvert leurs locaux, et donc vous pourrez aller les voir cet après-midi. Toute l'équipe de Chronique aussi, qui nous a aussi ouvert ses locaux. J'espère n'oublier personne. Le centre de formation des bons publics, alors vous allez les voir, ils vont vous guider tout au long de cette journée. Et puis, je finirai avec les membres du laboratoire PRISM, donc qui en fait portent le projet Harmonie, et je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà, et puis je remercie Adrien Cornelissen, qui est notre maître de cérémonie aujourd'hui et qui va être le maître du temps aussi, je suppose. Mais bon, je lui repasse le micro.
Merci Richard. Je vais donner le micro cette fois-ci à Alban Corbier-Labasse, directeur général de la Friche, la Belle de Mai.
Merci Adrien. Moi, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue à la Friche. Hein, Richard en a dit un mot à l'instant, mais pour nous, c'est vraiment très important de vous accueillir, sachant que c'est la troisième fois qu'on accueille le PEPR. Merci Solveig de contribuer à ce que nous soyons un lieu pour le dialogue entre la recherche et les ICC, puisqu'on a accueilli dans le cadre de Chronique une journée sur les arts visuels et arts numériques. On a accueilli une journée d'accélération la semaine dernière avec l'Université de Nice sur les métiers d'art et de la mode. Et puis aujourd'hui, cette journée avec Prisme. Donc on est vraiment très heureux. Puis surtout, on est très heureux de vous accueillir dans cet endroit particulièrement, qui n'est pas encore inauguré, qui le sera demain. Donc vous êtes vraiment les tout premiers à utiliser ce que nous avons appelé le Labo Friche. Une petite idée de ce à quoi ça peut correspondre. Notre idée, enfin notre intuition, enfin ce qu'on se raconte, c'est que la Friche est un lieu laboratoire depuis 30 ans, mais c'est aussi un lieu traversé par des chercheurs, par des laboratoires de l'AMU, beaucoup, par des doctorants, par des CIFRES. Et il nous a semblé important de raconter ça un peu mieux, de le rendre lisible, et puis surtout d'en faire un espace de recherche contributif, puisque c'est un petit peu, ou participatif, parce que c'est un petit peu ça, la friche, c'est de croiser les publics, de croiser les expériences, de croiser les expertises. Et c'est un peu l'idée de ce labo, qui est quand même très orienté autour des transitions sociales et écologiques notamment, mais dont l'ADN veut être un lieu de croisement des expertises de nos habitants, de nos artistes, des voisins, des producteurs, et évidemment du monde académique et universitaire. Donc vous êtes les premiers à l'expérimenter aujourd'hui. Il sera inauguré demain par Monsieur le maire, et on espère développer à la suite un certain nombre de programmes en lien en particulier avec le PEPR, bien sûr, avec qui nous sommes très heureux d'avoir déjà engagé tous ces partenariats. Juste un simple mot, parce qu'en écoutant Richard, je me suis dit que tout ça n'était pas un hasard, finalement. Le GMEM, chronique... Nicole et Norbert Corsino, délétère au couvent. Ça fait déjà quand même un magnifique écosystème qui s'intéresse à la question. J'ai cité chronique ou pas ? Non ? J'ai pas oublié. Bon, voilà. Ça fait déjà un magnifique écosystème qui travaille sur ces questions-là. Le pôle territorial, industrie culturelle et créative qui est en discussion, qui est en gestation, et peut-être en devenir, si l'appel à projet de France Relance apparaît, a un ancrage fort ici, et cet ancrage, il est quand même très lié aux nouvelles écritures numériques et à la création d'environnements numériques. Et donc cette journée aussi ici, pour moi, fait tout son sens, de par ses perspectives et de par les énergies qui sont déjà à l'œuvre sur ce territoire de la Belle de Mai. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée de travail, et puis j'espère pouvoir profiter des performances cet après-midi. Merci et bon travail.
Merci pour ton accueil au Labo Friche. Effectivement, c'est un lieu d'hybridation. C'est exactement le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Pour continuer cette introduction, je vais inviter Caroline Séguier, chargée de mission art visuel de la région Sud, à prendre le micro. Caroline Séguier ? N'est peut-être pas encore arrivé. Si.
Bonjour à toutes et tous. Juste un petit mot. Bah écoutez, en tout cas, au nom de la région, merci pour cette invitation, cette journée. Et moi, je parle plutôt au niveau là, du coup, du service de la création artistique et des arts visuels notamment, puisqu'on accompagne le travail depuis plusieurs années, depuis délétère. Voilà, sur ces créations à la fois immersives et numériques et tout ce travail qui peut être fait. Donc voilà, on est ravis de participer aussi à cette journée, à ce titre-là, au service de la création artistique sur ces questions, évidemment, qui animent beaucoup. Voilà, merci beaucoup.
Merci pour ces mots. Je vais inviter Sol Vexer, directrice de recherche au CNRS, qui fait partie de l'équipe du PEPR ICAR. Et également David Cœur-Joly, directeur de recherche au CNRS et directeur du co-directeur du PEPR ICAR.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais lire un petit texte et puis après je passerai une présentation du projet un peu moins formelle. Alors je suis particulièrement heureuse d'être ici à la Friche de la Belle de Mai pour le lancement du projet Harmonie, qui marque pour le programme de recherche industrie culturelle et créative la fin d'un cycle commencé le 11 septembre dernier par le lancement du projet ciblé Dédale et qui représente l'aboutissement d'un long processus à la fois scientifique et administratif de presque 2 années, une aventure collective co-construite par de nombreux acteurs scientifiques, professionnels et administratifs que je remercie beaucoup. Je dois vous avouer que j'ai une tendresse particulière pour ce projet, d'abord en raison de son porteur. Je n'ai rencontré qu'une seule fois Richard dans des circonstances désagréables, après c'était toujours très agréable, la première fois, il y a 3 ans tout rond, à l'occasion de l'évaluation de l'unité de recherche qu'il dirigeait, PRISM, et j'ai eu un véritable coup de cœur scientifique pour la sincérité du projet interdisciplinaire extrêmement novateur porté par ce laboratoire. Un coup de cœur scientifique et une grande admiration également pour toi Richard, ta manière de concevoir le travail scientifique et de lui donner du sens, cette manière aussi de ne jamais dévier de la ligne que tu t'es fixée, de créer avec une facilité indécente du lien entre nous tous et aussi ton indocilité. Et le programme de cette journée constitue d'ailleurs une pierre de plus que tu poses à l'édifice de ce jeune laboratoire créé en 2017, fondé sur l'alliance et l'alliage entre sciences fondamentales, sciences humaines et créations artistiques, plus particulièrement musique, cinéma, arts sonores et plastique. Alors, je vais passer à la présentation rapide du programme pour que vous compreniez où vous êtes en fait aujourd'hui. Il était une fois, le 12 octobre 2021, Emmanuel Macron annonça le déploiement du plan France 2030 qui avait pour but de transformer durablement des secteurs clés de l'économie française par l'innovation technologique et l'industrialisation et de positionner la France en leader du monde de demain, je cite. Hein. Il confia cette mission au secrétariat général pour l'investissement et le dota de 54 milliards d'euros. Tu peux mettre la... Ouais, voilà. Donc, on est au cœur des stratégies nationales d'accélération qui visent à réindustrialiser la France. Et il y a une trentaine de stratégies qui ont été déployées par le président de la République. Toutes ces stratégies d'accélération comportent un volet recherche, parfois plusieurs, mais un seul pour nous, qui s'appelle Programme de recherche PEPR. Donc le nôtre concerne les industries culturelles et créatives, mais il y a tout un tas d'autres stratégies, quantique, 5G, cybersécurité, qui touchent aux enjeux de réindustrialisation majeure de la France. Donc vous êtes dans, tu peux passer, le volet recherche de la stratégie d'accélération industrie culturelle et créative. Tu peux passer. Alors la mission que nous a confiée l'État, c'est, nous c'est le CNRS, qu'on représente David et moi, la mission est d'accompagner par la recherche la filière industrie culturelle et créative dans la transformation et adaptation aux enjeux numériques, économiques et sociaux. Ça, c'est nous qui l'avons rajouté parce que ça nous paraissait important. De demain, en gros, préparer France 2040. Tu peux passer. Je fais ça maintenant. Alors, la fiche d'identité de ce programme, c'est le CNRS qui porte, et plus particulièrement deux instituts, que sont Sciences humaines et sociales, c'est pour ça que je suis là, et Sciences informatiques, c'est pour ça que David est là. Mais évidemment, la cible, c'est l'ensemble des collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche et des écoles d'art du ministère de la Culture. Et également, évidemment, en vertu de la mission, les industries culturelles et créatives, que j'appellerai désormais acteurs culturels et créatifs, parce que le mot industrie frotte un peu. Bon, je vous passe les détails sur deux partenaires, c'est pas très intéressant. Le montant du programme, il est de 25 millions d'euros pour une durée de 6 ans, en réalité 8 ans, parce qu'on a commencé il y a 2 ans, mais on a contractualisé au printemps dernier, donc on en a pour 5 ans et demi encore. Voilà, et donc le lancement des projets, Richard est le dernier, donc on est en train de commencer vraiment à monter en charge. Alors, ça c'est pour les collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le principe qu'on a, quand on a élaboré le projet avec David, ça a été vraiment de décider qu'on ne voulait pas avoir des logiques d'équipe, de labo, de site, de tout ça, et qu'on voulait partir du chercheur. Dans tout le système enseignement supérieur et recherche, comme brique de base. C'est-à-dire qu'on a pris dans notre programme tous les chercheurs qui étaient compétents sur les thématiques du programme et que le programme intéressait. Je dis ça parce que du coup, on est monopartenaire, on a contractualisé avec personne, mais ça nous donne une liberté de manœuvre beaucoup plus grande. Et évidemment, c'est un réseau qu'on peut rejoindre en continu. Si vous n'y êtes pas encore, inscrivez-vous et voilà. Alors, je m'attarde un tout petit peu là-dessus parce que quand on a construit le programme avec David, on a essayé de faire un petit état des lieux, c'est ce qu'on fait toujours dans la recherche, et on s'est rendu compte qu'en réalité, la demande de l'État, on allait devoir la redescendre un peu parce qu'on partait très loin. Alors, on partait très loin, pourquoi ? Parce que d'abord, personne ne dialogue. C'est-à-dire les communautés SHS, elles dialoguent pas beaucoup avec les communautés informatiques et les communautés de recherche dialoguent très peu avec les acteurs culturels et créatifs. C'est la faute de personne, mais en réalité, il y a un besoin de dialogue qui était très, très fort. L'objet aussi, industrie culturelle et créative, est très complexe. Je prends la musique que je connais bien. Ça va du guitariste avec sa guitare à la grande major universelle. Et donc, il y avait tout un spectre d'échelle qu'il fallait qu'on prenne en compte dans ce programme, qui n'est pas évident non plus parce que ce n'est pas les mêmes mécanismes de fonctionnement économique, etc. Et nous, on devait tout prendre en compte. Deux choses aussi, l'atomisation des recherches. Donc on en revient au problème de lien, c'est-à-dire que la recherche globalement sur les ICC, elle est de très bonne qualité en France, mais en fait sortie du labo de l'équipe, personne ne sait ce que font les labos, les équipes d'à côté. Donc il y a aussi un besoin de lien. Et enfin, il y avait un problème de temporalité. C'est-à-dire que les professionnels ont besoin de réponses rapides, là où la recherche nécessite plutôt un temps moyen à long. Et les industries culturelles et créatives ont également besoin de prospectives, là où nous, on est très mauvais. Donc on va essayer de se former pour essayer de construire ensemble un avenir. Donc finalement, ça c'est notre mission à nous qu'on s'est fixée avec David. C'est le PEPR, on l'aura réussi si on arrive à créer les conditions d'une rencontre et d'un dialogue entre les communautés de recherche et les acteurs culturels et créatifs. Alors, sans entrer trop dans le détail de tout ça, le programme, il est construit autour de plusieurs grands blocs qui correspondent à nos dossiers de contractualisation. Le premier, le petit ovale jaune que vous voyez, c'est le réseau ICAR qu'on a construit. Pour l'instant, il y a 1 000 à 1 500 chercheurs qui travaillent par grand secteur de la filière ICC. Je veux bien que tu mettes la diamo, on reviendra après. Donc, que sont art visuel, Alban a parlé tout à l'heure d'une première journée art visuel qui avait eu lieu, audiovisuel, design et architecture, édition, jeux vidéo, métiers d'art et de mode, musée patrimoine, musique, spectacle vivant et art de vivre, qui n'est pas dans la liste du ministère. Oui ? Eh bien, moi, je ne maîtrise pas le contraste de l'écran. Mais sinon, vous retrouverez tout ça en ligne sur le site internet du projet, ça y est, en fait. Donc, art de vivre, qui est un secteur qu'on a rajouté, qui n'était pas prévu dans le programme, qui concerne gastronomie, œnologie, hospitalité. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Voilà. Et donc, le but de ce réseau, c'est de rassembler la recherche et les professionnels, de les faire dialoguer, de les animer lourdement. On organise une 60aine de journées par an, de structurer les activités de recherche et d'assurer des missions de veille et de prospective. Passer. Non, tu peux continuer. Par-dessus, il y a 6 projets. Donc, vous êtes aujourd'hui dans Harmonie. Ces projets, cette fois-ci, ne fonctionnent pas par secteur ICC, mais ils fonctionnent par thématique transversale qui était en lien avec la stratégie d'accélération industrie culturelle et créative. Tu peux mettre la diapo d'après. Donc, vous voyez, il y en a 6. Créer, diffuser et produire à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est Harmonie, c'est là où on est aujourd'hui. Mais il y a aussi Toucher les publics, qui s'appelle Thémis. Surmonter les crises, bien-être, démocratie, résilience, qui s'appelle Eupraxi. Alternative culturelle et créative, qui s'appelle Dédale. Et deux projets sur le métavers. Le premier, Styx, qui est plutôt expérience, on va dire, immersive du point de vue économique et juridique. Et le dernier, qui s'appelle Comet, qui est plutôt expérientiel et technologique, conception et usage des univers métaversiques. Le but étant évidemment que tout ça, et c'est tout l'enjeu du programme, arrive à faire du transversal pour enrichir considérablement le lien, le dialogue, etc., par thématique et par secteur. Ça, je parle de ça parce que ça me paraît important. On est un gros comité de programmation, on est une 50aine de personnes en responsabilité sur le programme et on a essayé d'être le plus représentatif dans la direction de la vocation du programme. C'est-à-dire qu'on a mis une 30aine de responsables qui sont à la fois des chercheurs en sciences humaines et sociales, des chercheurs en informatique et des professionnels. Souvent, on en a mis plusieurs par secteur en fonction de la physionomie du secteur. Par exemple, je prends l'édition comme exemple, entre le petit éditeur indépendant et Gallimard, il s'agissait de pouvoir représenter tout le monde, donc on a pris un gros et un petit. Et donc ce comité, c'est un comité qui est important parce qu'il décide de l'ensemble des mesures, notamment de financement du programme. Et on se réunit 3 fois par an. C'est ça, hein ? Voilà, tu peux passer. Alors, je finirai par les outils communs du programme, dont je vous invite vraiment à vous emparer. On a un site internet qui comporte toute la mémoire du projet, c'est-à-dire tout ce qui va être fait pendant les 6 ans d'ICAR va y être. La captation des journées, là on a enregistré, les publications scientifiques, éventuellement les articles de presse, enfin tout ce qui a pu être suscité par le projet sera sur ce site. Depuis 2 semaines, nous avons lancé une plateforme de rencontre qui s'appelle Ariane, qui correspondait à la nécessité de dialogue dont je vous parlais. Tout le monde peut s'inscrire nominativement, donc à la fois les communautés de recherche et les acteurs culturels et créatifs. Et ça vous met, une fois que vous êtes inscrit, sur la carte de France. Et ça vous permet d'être en lien sur vos thématiques, avec des mots-clés, avec des gens que vous ne connaissiez éventuellement pas et dont vous pourriez avoir besoin. Alban parlait tout à l'heure de pôle territorial ICC. Peut-être que quand il y a un pôle territorial qui se constitue, ben, ça permet de découvrir qu'il y a des collègues ou des acteurs culturels qui travaillent sur des sujets communs qu'on ne connaissait pas. Donc le but, c'est une fois de plus de faire du lien. Et au passage, ça gère toute notre communication, les listes de diffusion, etc. du PEPR. Donc c'est assez pratique. Troisième outil commun du programme, c'est les rencontres. À un rythme, je le disais tout à l'heure, assez soutenu. En février, on en a organisé 7 ou 8, je ne sais plus. Donc l'idée, c'est qu'il y a des rencontres quasiment toutes les semaines sur des thématiques qu'on veut le plus disruptif possible. Donc il ne s'agit pas de refaire de l'existant, mais vraiment de penser demain. Alors ensuite, il y a des appels à projets. Il y a 3 types d'appels à projets. Le premier, c'est un appel à petits projets à hauteur de 20 000 euros. Il y en a 100, on pourra en financer 100, qui est ouvert en continu. Donc pareil, on peut soumettre sur le site internet du programme et qui sert à ou amorcer des projets plus gros ou tout simplement faire un petit projet. Donc vous êtes aussi invité à vous en emparer, à postuler entre chercheurs et acteurs culturels. On évalue ça 2 fois par an, mais vous pouvez candidater tout le temps. Le deuxième appel à projet, ça c'est plutôt pour le système recherche, c'est un appel à accompagnement doctoral. Donc le but, c'est d'environner des doctorants inscrits en thèse à hauteur de 10 000 euros pour toute la durée de leur thèse, donc c'est assez précieux. Et l'idée, c'est de les inclure aussi dans ce système très vaste de rencontres PEPR. Le dernier dispositif, c'est un appel à contrats doctoraux, donc là c'est pour financer de la thèse, et c'est pareil, c'est ouvert à tous les collègues. Dernier outil commun, je ne sais pas si je peux encore en parler, c'est l'appel à manifestation d'intérêt. Il reste 5 millions pour Dublin, pour les communautés de recherche. Seul souci, c'est que c'est géré par le secrétariat général pour l'investissement, qui a eu des coupures de 530 millions à l'hiver. Donc on ne sait pas si ça va pouvoir voir le jour, ou en tout cas dans ces 5 millions-là. Donc on espère, parce qu'on avait quand même réservé un quota de blanc pour rendre aux communautés un peu leurs idées. Voilà, c'est pas de notre faute, et on pose des questions sur le calendrier, on n'a pas de réponse, donc on espère vraiment, en tout cas nous il est prêt, tout est prêt, mais on attend. Voilà, est-ce qu'il y a une autre diapo ou c'est... Ah ben voilà, donc ça c'était pour vous montrer la plateforme, ce que ça donne. On l'a étendue pour plein de raisons, dans les Outre-mer aussi, à la Corse, donc ça concerne vraiment toute la France métropolitaine et ultramarine. Et le but, c'est vraiment de créer des synergies à la fois territoriales, mais aussi hexagonales, notamment parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas très bon, les acteurs culturels et la recherche, pour monter à l'Europe, par exemple, répondre à tous les projets Europe Créative. Et je pense que c'est notamment parce qu'on n'est pas cartographié, parce qu'on ne se connaît pas. Et l'idée aussi, c'est au bout de 6 ans d'être capable d'augmenter la capacité de réponse à ce qu'on peut faire à l'Europe, puisque nos voisins européens font plutôt bien. Voilà. Et je pense que c'est à Richard maintenant. Merci beaucoup.
Merci Solveig, merci David. Présentation extrêmement intéressante. Richard, tu as le mot de la fin ?
Le mot de la fin, oui. Je me prends un petit peu plus qu'un mot, parce que je vais quand même vous parler un peu plus précisément du projet Harmonie, et puis vous situer un petit peu le contexte dans lequel on l'a construit. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en plein au cœur d'une véritable révolution technologique en ce moment, avec l'avènement de l'IA et des technologies immersives. Et bien entendu, cette révolution-là, elle va toucher tous les secteurs d'activité, et y compris donc les ICC, les industries culturelles et créatives. Alors, si on a bien compris que cette révolution, elle est incontournable, il va falloir l'affronter. Et c'est dans ce contexte donc que le PEPR ICAR a mis en place une mission liée et axée sur les enjeux de la création à l'heure des nouvelles technologies. Et donc c'est le projet Harmonie qui porte cette mission, avec le but donc de créer, d'engendrer des nouvelles méthodologies et de créer des outils susceptibles d'aider donc les créateurs dans le domaine de la création des ICC. Alors, je vais un petit peu casser le moral à tout le monde pour dire que si on veut affronter donc ces choses-là, il va falloir se relever les manches et surtout reprendre en main les leviers qu'il nous reste encore. Et je dis vraiment reprendre en main, et là on va passer au slide suivant, parce que force est de constater qu'on a pris du retard en France dans ce domaine-là. Et pour vous en convaincre, là, ici, j'ai mis une slide avec un extrait du rapport de la Commission de l'intelligence artificielle qui a été remis en avril 2024 et qui dit la chose suivante. Face à ces défis d'ampleur, nous ne pouvons pas reproduire les erreurs du passé. Au cours de ces deux dernières décennies, la France et l'Europe ont réagi trop tard et trop peu, avec un faible engagement dans l'innovation technologique et une réglementation tardive. Cette faiblesse de l'innovation française s'explique par de multiples freins. Ils en citent trois. Le frein de la méconnaissance des enjeux technologiques sous-jacents à l'IA et de ses effets potentiels sur la société. Donc ça, c'est un message plutôt pour les politiques. Le frein à notre aversion collective au risque. Là, c'est toute la société qui est en jeu. Et le frein de la bureaucratie qui entrave en particulier la recherche publique. Je ne vais pas développer là-dessus, je pourrais en parler pendant des heures. Alors, donc, il va falloir effectivement agir. Et du côté des ICC, qu'est-ce qui se passe plus particulièrement ? Ben, pour les créateurs, je pense qu'il y a une grande angoisse. Hein, pour beaucoup de créateurs et d'artistes, ces nouvelles technologies, elles sont un peu synonymes de perte d'activité, de perte de revenus. Et puis, il y a tous les problèmes liés à la propriété intellectuelle, aux droits d'auteur, et tout ça, ça va être bien débattu dans le cadre du PEPR, bien entendu. Mais bon, je vais un petit peu maintenant faire revenir le soleil, parce qu'il y a quand même de l'espoir dans tout ça, donc on va passer au suivant. Et en effet, je pense que ce qu'on peut dire aussi, si on regarde bien les choses, c'est que ces nouvelles technologies, elles ne mettent pas forcément en danger l'originalité de la création. Et ça, c'est important, parce qu'en effet, elle ne constitue qu'un nouvel outil qui va se rajouter à la panoplie des outils déjà existants et qui sont à la disposition des créateurs. Il faut bien voir que ces nouvelles technologies, en particulier l'IA, elles sont construites à partir d'algorithmes et de données. Et donc, elles ne peuvent restituer que ce qu'elles ont appris. En aucun cas, elles vont inventer. Donc, on peut les comparer. J'ai mis un petit perroquet là sur cette slide pour dire, en fait, moi, je vois un peu l'IA comme un super perroquet qui ne peut restituer que ce qu'il a appris et qui en aucun cas va inventer de choses nouvelles. Donc la création originale, elle aura toujours besoin de l'humain, en tout cas c'est notre credo. Et c'est peut-être une opportunité pour les créateurs, c'est-à-dire de s'emparer de cet aspect-là, de dire que finalement la création ça va être quelque chose qui va être une ressource qui va être de plus en plus peut-être rare, mais en tout cas précieuse. Et donc on va essayer de travailler dans ce cadre-là. Je ne sais plus ce que j'ai prévu après. Ben oui, ben voilà, ben ça c'est juste pour dire qu'il n'y a pas que moi qui le pense. J'ai quand même interrogé ChatGPT pour lui dire, pour lui demander un petit peu ce qu'il pensait de tout ça. Je lui ai demandé de se définir. Alors bon, ben bien sûr, il m'a défini, il m'a écrit des pages et des pages techniques. Et puis il a fini par dire « Je ne ressens rien, mais j'essaie de comprendre le monde à travers tes mots. Mon rôle, soutenir ta pensée, t'inspirer et t'accompagner dans tes réflexions, que ce soit sur la technologie, l'art ou la philosophie. » Et ça, c'est important qu'il reconnaisse lui-même qu'il ne ressent rien. Et là, c'est vraiment la différence entre la technologie, la machine et l'humain. Alors, suivant. Bien, c'est sur ces constats, finalement, qu'on a commencé à travailler sur la définition un petit peu du projet Harmony. Et pour ça, on s'est appuyé sur deux conjectures majeures. La première, c'est qu'il y a des difficultés pour les créateurs à expérimenter et appréhender les nouvelles technologies numériques. Alors ça, on reçoit souvent des jeunes artistes, des jeunes ou des vieux, et des créateurs qui nous disent « ben voilà, moi j'aimerais bien utiliser ça, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre, je ne sais pas où trouver les outils, etc. » Puis ça coûte cher. Donc ça, c'est essentiel de trouver les moyens de les accompagner. Là, je sais qu'il y a des représentants aussi du monde politique, donc je m'adresse à eux. Il faut donner à ces créateurs les moyens de s'investir avec ces technologies-là, parce que le risque qu'on a, c'est de les voir partir et aller travailler ailleurs, là où ils pourront les utiliser. La deuxième conjecture, c'est qu'il y a une insuffisance d'interaction entre la recherche et la création. Donc ça, c'est un petit peu général au niveau du PEPR. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose un peu, je dirais, typiquement français, à savoir que la recherche et la création et l'art sont très séparés. Et dès la formation, en fait, si on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que les écoles d'art, les conservatoires, les écoles d'architecture, les écoles de design sont complètement dissociées de l'université. Alors quand on dissocie les gens dès le plus jeune âge, en fait, comment on peut espérer qu'ils parlent bien ensemble? Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, eh bien, on construit des outils qui ne sont pas vraiment les outils qui sont attendus par les créateurs. Donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Et puis bon, je ne sais plus ce que... Voilà. Et bon, tout simplement, il faut donc effectivement rassembler art et science. Là, juste cette slide pour dire que c'est vrai que avant le XVIIe siècle, les arts et les sciences étaient intimement liés, et souvent les chercheurs étaient des artistes et inversement. Et puis à partir du XVIIe siècle, on a commencé à se spécialiser, et la science est partie vraiment dans une méthodologie qui visait à prouver de façon méthodique ce qu'elle avançait, alors que l'art s'intéressait plutôt à l'émotion, à l'esthétique, à l'individu. Et pourtant, donc les arts et les sciences se sont toujours inspirés. Là, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, l'invention de la peinture à huile, qui a transcendé un petit peu l'art pictural. L'invention de la photographie, qui a été importante aussi pour l'impressionnisme. L'invention de la caméra, qui a permis la naissance du cinéma. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Hein. Ce n'est pas que la science qui inspire l'art, mais l'art inspire la science aussi. Par exemple, les premières machines qui datent du 3e siècle avant Jésus-Christ, on dit que c'est l'invention de l'orgue à tuyaux qui a été inventée par des artistes pour jouer de la musique, précisément. Puis ensuite, l'invention des grandes orgues, qui a préfiguré finalement un des théorèmes fondamentaux en mathématiques, le théorème de Fourier, qui stipule en fait qu'un son, alors je parle de son, mais c'est un signal en général, un son très très complexe peut être constitué d'une somme de sons élémentaires, donc des sons qui sont produits par les tuyaux individuels de l'orgue. Et puis les boîtes à musique qui sont considérées actuellement comme les premiers programmes enregistrés. Donc en fait, c'est les débuts de l'informatique. Là, je parle à l'informaticien. Alors le slide suivant, je vais vite avancer parce que sinon on va perdre beaucoup de temps, je pense. Donc l'idée, c'est de faire interagir mieux et plus fortement les arts, les sciences et les technologies. Et c'est donc sur ces idées-là qu'on a construit le programme, donc le projet Harmonie. On va passer à la suivante. Qui est construit donc suivant trois axes majeurs. Donc le premier axe, c'est réunir artistes, chercheurs et acteurs des ICC au sein de journées d'accélération. Alors vous avez vu que c'est un petit peu générique au niveau du PEPR ICAR, et Solveig en a bien parlé. Mais là, on va se focaliser sur les nouvelles technologies. On a déjà commencé avec une journée d'accélération qui a eu lieu en septembre 2024 autour du logiciel Max. Il va y avoir ce mois-ci, en fin de mois, deux journées d'accélération dans le cadre du festival Musique et Cinéma. Alors, je sais que Jacques Sapiega, le président du festival, est ici, donc vous pourrez l'interroger si vous êtes intéressé. Et donc ces deux journées, il y en aura une liée à l'IA et le cinéma, pour faire simple, et une autre qui est liée à cette question sensible, donc des droits d'auteur. Et puis on aura encore deux journées lors des JIM 2025, JIM pour Journée d'informatique musicale, qui aura lieu à Lyon, avec une journée sur IA et création musicale, et l'autre journée sur l'immersion. Bien sûr, toutes ces journées sont ouvertes à tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Le deuxième axe majeur, c'est expérimenter un lieu de rencontre et de partage autour d'une plateforme arts, sciences et technologies. Alors là, on se lance. Hein, on se lance, c'est-à-dire qu'on va tenter d'ouvrir les laboratoires de recherche aux créateurs et aux artistes. Et donc nous, au laboratoire PRISM, on est en train de déployer une plateforme expérimentale d'immersion multisensorielle qui sera unique au monde, qui n'existe nulle part ailleurs, et qui permettra d'expérimenter l'immersion multisensorielle à la fois sonore, puisqu'on aura 350 haut-parleurs qui seront répartis sur les six faces de la salle, au niveau vibratile, donc, puisque le sol pourra vibrer, on aura un sol de 80 mètres carrés qui sera avec vibrations contrôlées. Et puis, on pourra traiter aussi l'image, la lumière, un grand travail sur la lumière et sur les textures lumineuses. Et tout ça avec des caméras qui permettront donc de gérer l'interactivité avec les participants. Voilà, donc ça, on espère que ça sera en place à la fin de l'année 2025. Et je vous convie déjà à l'inauguration de ce lieu un peu unique, fin 2025, début 2026, on se méfie toujours un petit peu du temps. Voilà, le troisième axe, effectivement, donc, c'est produire des résultats majeurs de recherche. C'est notre mission quand même de faire de la recherche, mais on veut la faire en partenariat avec les acteurs des ICC. Et donc dans ce cadre, on a des petits projets spécifiques au projet Harmonie, donc on en a pas 100. On n'en a pas autant que ce que Solveig a annoncé pour le PEPR lui-même, mais on devrait pouvoir financer un à deux projets par an dans le cadre de partenariats. L'idée, c'est de créer des partenariats pour développer des outils et surtout pour identifier les verrous. Parce que pour nous, chercheurs, c'est important d'identifier les verrous, les véritables verrous, et de s'intéresser, donc de lancer nos projets de recherche de façon autour de ces verrous-là, de façon à les faire sauter. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout. Dernier slide, et puis on... Ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Pourquoi ? Alors, ça sera au laboratoire PRISM. Pour l'instant, je vous ai donné un rendez-vous sans vous fixer de date. C'est pour ça que je n'ai pas été beaucoup plus loin. Mais PRISM, c'est à Marseille. C'est sur le campus Joseph Heguier du CNRS. Donc, c'est vers Mazargues. Voilà. Mais le rendez-vous, je ne peux pas vous le fixer encore parce qu'on est encore en plein travaux.
Merci, Richard.
Adrien, je te relaisse la parole.
Merci. Merci pour ces deux présentations qui ont été très importantes. Très important pour le contexte de la journée, j'ai essayé de calculer le nombre de fois où le mot immersif est revenu. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Et c'est justement ce qu'on va évoquer ensemble. Je vais appeler les intervenants Charles Ayatz, Marie Point, Claire Châtelet et Jean-Marie Dallet à venir s'installer pour évoquer ensemble cette table ronde Immersion, j'écris ton nom.